VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barge.
Bonjour, il est 13h à Washington, le point sur l'actualité africaine. Violence électorale au Soudan, plusieurs bureaux de vote ont été attaqués dans la circonscription d'Abila, au Kordofan Sud. D'après la commission électorale, des combattants de la branche nord du mouvement de libération du peuple du Soudan se sont emparés de matériel électoral. Trois bureaux de vote ont été fermés. Le scrutin a débuté lundi et devrait aboutir à la réélection du président. Président Omar El-Béchir, au pouvoir depuis 1989. En Guinée, les échauffourées entre partisans de l'opposition et policiers et gendarmes ont repris ce mardi matin à Conakry, au lendemain d'une journée de heurts qui ont fait un mort et au moins une dizaine de blessés. Plusieurs centaines de jeunes, selon l'AFP, s'affrontaient aux forces de l'ordre à coups de pierres et de pneus brûlés contre gaz lacrymogène, matraques et tirs de sommation en l'air sur l'autoroute Le Prince conduisant au centre de la capitale. Ces violences de moindre intensité que la veille ont provoqué des embouteillages, mais aucun blessé n'a été signalé dans l'immédiat, selon les mêmes sources. Nigérien, un an jour pour jour que les 219 lycéennes de Chibok ont été enlevées par le groupe islamiste Boko Haram. Elles n'ont toujours pas été retrouvées. Plusieurs manifestations étaient prévues aujourd'hui au Nigeria et ailleurs dans le monde en l'honneur des captives. Le président élu nigérian Muhammadu Buhari s'est engagé à faire tout son possible pour les retrouver, mais il dit aussi ne pas pouvoir promettre de les libérer. Selon un rapport d'Amnesty International publié ce mardi, les islamistes armés ont enlevé au moins 2000 femmes au Nigeria depuis début 2014. En Somalie, les Chebabs ont revendiqué l'attaque contre le ministère de l'Éducation qui a fait ce mardi au moins 15 morts à Mogadiscio. Idriss Fall.
Abdulkadir Abdirahman Aden, responsable des services ambulanciers de Mogadiscio, joint par le service somalien de la Voix de l'Amérique.
Nous avons récupéré 20 blessés, dont des civils, et les corps de 15 personnes tuées.
L'attaque a eu lieu au ministère de l'Éducation. Il y a eu d'abord une forte explosion d'une voiture piégée, puis un commando armé a pris d'assaut le bâtiment.
Abdul Aziz Abou Moussa, porte-parole des Chebabs, a revendiqué l'attaque pendant qu'elle était en cours. Par la suite, Ahmed Weli Malim, responsable de la police, a assuré que les forces gouvernementales et les soldats de l'AMISOM ont totalement repris contrôle du ministère. Jeudi dernier, le gouvernement a mis à prix les têtes de 11 responsables des Chebabs et offre jusqu'à 250 000 dollars pour la capture d'Ahmed Oumar Abou Oubouyed, le tout nouvel émir du groupe islamiste somalien.
Interpol et l'OIM ont lancé le premier projet pilote conjoint pour combattre la traite des enfants dans l'industrie du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le Ghana a adopté une loi sur la traite des êtres humains en 2005 et la Côte d'Ivoire travaille actuellement sur un projet de loi. En mars 2014, Interpol et l'OIM ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale, y compris l'éradication de la traite des êtres humains. L'OIM fournira une aide à environ 80 enfants victimes de la traite dans le cadre de ce projet de 6 mois. Michele Bombassei, spécialiste de l'aide aux migrants au bureau régional de l'OIM à Dakar.
L'Interpol, comme vous savez, c'est beaucoup préparé dans le cadre de l'investigation, donc au niveau d'investigation et persécution des coupables. Et par contre, l'OIM qui a travaillé beaucoup pendant les derniers 30 ans sur la côté protection des victimes, identification des victimes, protection et réinsertion dans la société d'origine. Donc, il y a deux composants et je crois que les deux composants sont partie d'une réponse compréhensive qu'il faut donner au phénomène. Et l'idée, c'est d'utiliser l'expertise de l'Interpol, surtout, comme je dis, sur l'aspect formation des capacités de la police, ministère public, des juges dans les deux pays, et par contre de travailler avec la police, avec la société civile de la côté de l'OIM sur l'aspect lié à la protection des migrants, à l'identification des victimes. C'est en composant un peu la partie plus innovative et plus importante du projet.
Michele Bombassei de l'OIM était joint à Dakar, au Sénégal. Les écoliers de Sierra Leone ont repris le chemin de l'école aujourd'hui après 8 mois de fermeture en raison de l'épidémie d'Ebola, dont le pays compte le plus grand nombre de cas. En vue de cette rentrée exceptionnelle, l'UNICEF a formé 9000 enseignants à la prévention d'Ebola et a fourni 24 300 dispositifs de lavage des mains, soit une moyenne de 3 pour chacun des quelques 8000 établissements du pays. L'ouverture des écoles, initialement programmée le 30 mars, avait été reportée de 2 semaines à la suite notamment d'une recrudescence de nouveaux cas dans l'ouest où se trouve Freetown, la capitale de ce pays de quelques 6 millions d'habitants. Parmi les 3 pays les plus touchés, la Sierra Leone est le dernier à rouvrir ses écoles après la Guinée le 19 janvier et le Libéria le 16 février. En Afrique du Sud, des attaques contre les immigrants se poursuivent depuis une semaine. Eddie Issango.
À Durban, un adolescent de 14 ans a été tué dans la nuit de lundi à mardi et un homme de 45 ans a vu les assaillants détruire sa boutique et tout emporter. Des scènes comme celle-ci ont lieu dans plusieurs villes de la République sud-africaine depuis plus d'une semaine. Des assaillants s'en prennent aux immigrants et à leurs activités économiques. Tout est parti d'un appel lancé par un roi zoulou, Goodwill Zwelithili. Pour ce chef traditionnel influent, tous les étrangers devraient faire leurs bagages et s'en aller. Le roi zoulou s'est rébiffé, mais son appel à la retenue n'est pas entendu. Depuis, les Sud-Africains cassent et pillent les biens des étrangers qu'ils accusent de voler les emplois des nationaux. La police a mis la main sur plusieurs des pillards et le président Jacob Zuma a même lancé un message aux Sud-Africains leur faisant voir que les immigrants vivent légalement dans ces pays et contribuent énormément à l'économie. Toutefois, les appels des autorités sud-africaines ne semblent pas arrêter la vague d'attaques. En janvier, 4 personnes sont mortes lors de pillages similaires. En 2008, d'autres violences contre les immigrants se sont soldées par la mort de 60 personnes.
VOA Afrique en direct de Washington.
Les États-Unis s'insurgent contre la perspective d'une vente de missiles anti-aériens S-300 russes à l'Iran. Téhéran, par contre, s'en réjouit. Le point avec Félix Yepassi-Zembrou.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a exprimé ses objections hier dans un appel téléphonique à son homologue russe Sergei Lavrov. Ce dernier est d'avis que l'accord préliminaire avec Téhéran sur son programme nucléaire rend inutile la mesure de 2010 interdisant les exportations de missiles vers l'Iran. Mettre fin à cette interdiction pourrait entraver les efforts en vue de lever les sanctions internationales contre l'Iran, a averti Josh Earnest, secrétaire général de la Maison-Blanche. Notre opposition à ces ventes est ancienne et public. Nous pensons que ces ventes n'aident en rien, a fait savoir de son côté le porte-parole du Pentagone, le colonel Stephen Warren. Pour sa part, l'Iran se félicite de la décision russe. Selon le ministre iranien de la Défense, que cite l'agence de presse iranienne IRNA, la livraison de missiles anti-aériens russes et la coopération avec la Russie et les pays de la région pourraient contribuer à une sécurité durable.
Et selon Téhéran, la Russie pourrait commencer à livrer les missiles anti-aériens d'ici à la fin de l'année. Et à propos du nucléaire iranien, l'Iran s'est dit disposé à faire des pas irréversibles pour résoudre le dossier nucléaire. Si en parallèle, ses partenaires prennent également des mesures du même niveau, a déclaré ce mardi à Madrid le ministre iranien des Affaires étrangères, cité par l'AFP. L'Iran et les grandes puissances du groupe des 6 vont reprendre le 21 avril les discussions pour la rédaction du texte de l'accord final sur le nucléaire. Les sports pour terminer. Championnat national de Côte d'Ivoire. La phase de retour du championnat national a commencé ce week-end avec la 14e journée. La SEC Mimosa prend provisoirement la tête du classement grâce à sa victoire 1-0 sur l'ASSI d'Abengourou. La saignée continue pour le Sewe, champion titre battu par l'Assoa 3-0.
«
Soyez au cœur de l'info.